Bonjour et bienvenue, 14h TU, 16h ici à Paris, le journal sur RFI.
Gilles Moreau.
Les violences se déchaînent au Proche-Orient un an après le début de la guerre Israël-Hamas. Déchaînement de violences en particulier dans les territoires palestiniens et au Liban. La banlieue sud de Beyrouth, qui abrite des positions du Hezbollah, est violemment bombardée par l'armée israélienne. Tandis que dans la bande de Gaza, des frappes sur une école et sur une mosquée ont fait au moins 26 morts. Au sommaire également, Donald Trump de retour à Butler en Pennsylvanie, où il a failli être assassiné cet été. Au Brésil, des élections municipales à valeur de test grandeur nature pour le président Lula. Et au Kazakhstan, un référendum pour ou contre la construction d'une première centrale nucléaire. Demain, lundi 7 octobre, marquera le premier anniversaire de l'attaque d'Israël par le Hamas, attaque qui a fait plus de 1200 morts pour la plupart des civils. L'armée israélienne est actuellement en état d'alerte renforcée par crainte d'attentat. Dans un message à l'occasion de cet anniversaire, le président israélien a dénoncé la menace permanente que font peser, selon lui, l'Iran et ses mandataires terroristes. Les Israéliens, eux, restent massivement mobilisés par la question des otages. Reportage à Jérusalem de Michel Paul.
C'est la tradition, au moment de Rosh Hashanah, le nouvel an juif, des sonneries de chauffard, des cornes de bélier, symbole d'un examen de conscience. Pour David Head, professeur de philosophie, le sort des otages est une grande tragédie.
Je ne crois pas que les otages reviendront. Je pense que le gouvernement a décidé de les sacrifier pour continuer la guerre. La poursuite de la guerre est tellement importante pour Bibi qui ne renoncera ni au Liban, ni à Gaza.
Chaim Peri, militant de la paix, enlevé le 7 octobre, a été tué dans le sud de la bande de Gaza et son corps rapatrié à la fin du mois d'août. Son petit-fils, Mei Albini Peri, accuse directement le premier ministre israélien.
Netanyahou est au pouvoir depuis 15 ans ou quelque chose comme ça, et tout ce qu'il a fait, c'est d'essayer de rester en poste, que ce soit avec la réforme judiciaire et maintenant la guerre et la question des otages. De toute façon, on sait qu'il n'a pas vraiment l'intention de ramener les otages.
De nouveaux rassemblements sont prévus ce lundi pour marquer le premier anniversaire de ce que l'on appelle en Israël le samedi noir. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Officiellement, 101 otages se trouvent toujours à Gaza et la mort de 35 d'entre eux a été confirmée. La guerre Israël-Hamas continue avec son cortège d'horreur. Au moins 26 morts et des dizaines de blessés dans la bande de Gaza. Dernier bilan de frappes israéliennes sur une mosquée, sur une école abritant des personnes déplacées. Dans ce même territoire, la défense civile annonce 17 morts, dont 9 enfants après des frappes israéliennes sur Jabalia dans le nord. Au Liban, de nouvelles frappes israéliennes ont visé ce matin la banlieue sud de Beyrouth, quelques heures après des raids nocturnes très violents sur ce bastion du Hezbollah. Le ministère libanais de la Santé fait savoir que les frappes d'hier samedi à travers le Liban ont fait un total de 23 morts. Quant au premier ministre libanais, il demande au monde de faire pression sur Israël pour qu'il s'engage à un cessez-le-feu. En Tunisie, le chef de l'État sortant, Kais Saied, part grand favori de la présidentielle qui se tient ce dimanche. Un peu moins de 10 millions d'électeurs sont appelés à voter. Ils ont jusqu'à 18 heures pour le faire. L'une des rares inconnues est la participation. Elle avait été de seulement 12% aux législatives de l'an dernier. On vote aussi au Brésil ce dimanche, premier tour d'élection municipale. Le scrutin intervient 2 ans avant les prochaines élections générales, présidentielles et législatives. Il a valeur de test pour le président Lula qui, malgré son âge, 78 ans, n'exclut pas de se représenter en 2026 à Rimlipold.
Il y a 4 ans, le Parti des travailleurs du président Lula a perdu la moitié des mairies qu'il détenait. Un revers électoral que la gauche brésilienne tente de corriger en s'appuyant sur la notoriété de son président. Mais le PT fait face à une armée de candidats du parti PL de l'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro. Déclaré inéligible par la justice pour avoir mis en doute la fiabilité du système électoral, il tente de poursuivre l'implantation locale de son parti. Seulement voilà, il est concurrencé par un outsider devenu la coqueluche de l'électorat bolsonariste Pablo Marçal, un richissime coach qui se présente à la mairie de Sao Paulo. Avec des phrases choc et des vidéos virales, cet influenceur d'extrême droite ne cesse de grimper dans les sondages, ce qui montre qu'au Brésil, le discours extrémiste a gardé son pouvoir de séduction. Autre tendance à observer, lamenté des évangéliques. Le Parlement de Manaus pourrait être la première assemblée du Brésil composée uniquement de députés appartenant à ce courant chrétien.
C'était Arine Lipold. On en vient à la politique aux États-Unis avec un temps fort hier dans la campagne présidentielle, à moins d'un mois du vote. Maintenant, le retour de Donald Trump à Butler dans l'État-clé de Pennsylvanie, un peu moins de trois mois après y avoir échappé de peu à un attentat. Reportage de Guillaume Naudin.
La musique du film Top Gun souligne le passage de Trump Force One, l'avion personnel de Donald Trump, au-dessus de milliers de personnes ravies. Quelques minutes plus tard, ses partisans scandent son nom alors que l'ancien président s'apprête à leur parler derrière des vitres blindées. Laurie était là le 13 juillet, elle est revenue écouter la fin du discours.
Je voulais soutenir son cran, sa bravoure, son courage. C'est vraiment lui, c'est un combattant. Et s'il peut prendre une balle pour moi et pour nous tous, je peux revenir et le soutenir, c'est sûr.
À côté d'elle, il y a Ingrid, elle aussi venue écouter la fin d'un discours dont elle retient un message, les Américains d'abord.
Il y a un désastre en cours dans le sud-est des États-Unis et ces gens vont avoir $750 après avoir tout perdu. Mais ils ont trouvé 152 millions ou je ne sais pas combien pour envoyer au Liban. On a de l'argent à envoyer au Liban et $750 pour des citoyens américains et franchement, c'est n'importe quoi.
Pendant ce temps, Donald Trump continue de parler, sauf pour céder la parole à l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, pour un message simple.
Vote, vote, vote.
Voter, même par correspondance ou en avance, et c'est nouveau dans le discours trumpiste. Guillaume Nonin, Butler, RFI.
En France, mauvaise nouvelle en vue pour les consommateurs d'électricité. Les factures pourraient ne pas baisser comme promis en février prochain. Elles pourraient même grimper pour de nombreux consommateurs. Le gouvernement de Michel Barnier serait tenté de relever les taxes afin de boucler son budget. Mais Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique et de l'Énergie, met en garde contre le risque pour la facture des Français modestes. C'est jeudi prochain que sera présenté en Conseil des ministres le projet de budget 2025, budget de crise dont l'objectif est de commencer à combler les déficits publics, déficits qui, selon Michel Barnier, ont dépassé la cote d'alerte. Interrogé hier en marge du sommet de la francophonie, le président Macron a renvoyé la balle à son Premier ministre et au Parlement. Le Kazakhstan se prononce ce dimanche par référendum sur le nucléaire. Les Kazakhs doivent dire oui ou non à la consultation de la construction de la première centrale nucléaire du pays. Un pays d'Asie centrale qui connaît un paradoxe. Il est déficitaire en électricité alors que c'est le premier producteur mondial d'uranium. Si le oui l'emporte, la centrale sera bâtie dans un petit village du sud-ouest du pays, Heike Schmidt.
Ulken, ce petit village perdu dans la steppe immense, va-t-il accueillir la première centrale nucléaire? L'atome pacifique apportera l'abondance, promettent en tout cas des panneaux plantés là par les autorités. Le président Kassym Yomar Tokayev espère un oui massif au référendum. Le pays dispose de grandes possibilités pour développer l'énergie nucléaire, a-t-il déclaré. Il est important de l'exploiter correctement et efficacement. Aujourd'hui, le Kazakhstan, premier producteur d'uranium au monde, dépend encore à 66% du charbon et les pénuries d'électricité sont chroniques. Reste que le sombre passé atomique pèse lourd dans ce pays de l'ex-Union soviétique. C'est ici qu'en 1949, Moscou teste sa première bombe A. 456 essais nucléaires suivront, exposant plus d'un million d'habitants aux radiations. L'atome reste donc un sujet explosif. Mais dans ce régime autoritaire où la propagande prime sur le débat démocratique, l'État met tout son poids dans la balance pour que le oui l'emporte et les voix critiques sont muselées.
C'était Heike Schmidt du service international. On termine par le sport, en particulier le tennis au tournoi de Shanghai. L'Italien Sinner, numéro 1 mondial, a perdu le premier set contre l'Argentin Echeverri avant de s'imposer au troisième tour. Il a fallu aussi 3 sets au Russe Medvedev, numéro 5 mondial, pour venir à bout de l'Italien Arnaldi, autre qualifié pour les huitièmes, l'Espagnol Carlos Alcaraz, qui affrontera au prochain tour un Français, Gaël Monfils ou bien Hugo Humbert. Très bonne journée sur RFI, tout de suite l'émission Session Lab.